Chapitre 8. Un étrange collaborateur. Malgré ses prétentions au sang-froid, le notaire fut quelque peu estomaqué. Une enchère double de celles qui ont précédé, cela n'est pas fréquent. Il murmura « 950 000 francs, personne ne dit mot, 950, adjugé !» Tout le monde se pressait autour du nouveau venu. Maître Odiga, inquiet, hésitant, allait lui demander une seconde confirmation et s'informer de son nom, de ses références, etc. Quand il comprit au regard de Raoul que ce monsieur-là n'était pas de ceux qui se laissent manœuvrer. Il y a des habitudes et des convenances auxquelles il faut se soumettre. Les explications de cette sorte n'ont pas lieu en public. Le notaire se hâta donc de pousser les gens dehors afin de réserver le salon pour la conclusion d'une affaire qui se présentait de façon singulière. Quand il revint, Raoul était assis devant la table et le stylographe en main signait un chèque. Un peu plus loin, debout, Jean d'Erlemont et Antonine suivaient ses gestes sans mot dire. Toujours nonchalant et tranquille, Raoul se leva et, s'adressant au notaire avec la désinvolture d'un monsieur à qui incombe le soin de prendre les décisions, « Dans un instant, maître Odiga, fit-il, je me permettrai de vous rejoindre à votre étude où il vous sera loisible auparavant d'exciner et examiner les pièces que je vais vous confier. Voulez-vous me préciser les renseignements dont vous avez besoin ?» Le notaire, abasourdi de cette façon d'agir, répliqua « Votre nom d'abord, monsieur. Voici ma carte, Don Luis Perenna, sujet portugais, d'origine française. Voici mon passeport et toutes les références utiles. Pour le règlement, voici un chèque de la moitié tiré sur la banque portugaise de crédit à Lisbonne, où j'ai mon compte. » L'autre moitié vous sera versée à l'époque que M. d'Erlemont voudra bien me fixer, à la fin de notre conversation. Notre conversation ? Demanda le marquis surpris. Oui, monsieur, j'aurai plusieurs choses intéressantes à vous communiquer. Le notaire, de plus en plus désorienté, fut sur le point de faire quelques objections, car enfin, qui prouvait qu'il eût un compte suffisant ? Qui prouvait que, dans l'intervalle nécessaire au paiement du chèque, la provision ne serait pas épuisée? Qui prouvait... Il se tut, il ne savait trop que dire en face de cet homme qui l'intimidait et que son intuition personnelle lui montrait comme un monsieur, peut-être pas très scrupuleux, en tout cas assez dangereux, pour un officier ministériel attaché à la lettre des règlements. Bref, il jugea prudent de réfléchir et dit ben, « Vous me trouverez à mon étude, monsieur. » Il s'en alla, sa serviette sous le bras. Jean d'Erlemont, désireux d'échanger quelques mots avec lui, l'accompagna jusqu'à la terrasse. Antonine, qui avait écouté les explications de Raoul avec une agitation visible, voulut également sortir. Mais Raoul avait refermé la jeune porte et repoussa la jeune fille. Troublée, elle courut vers l'autre porte qui donnait directement sur le vestibule. Raoul la rattrapa et la saisit par la taille. « Eh bien quoi ? » disait-il en riant. « Vous avez l'air bien farouche aujourd'hui. Alors on ne se connaît pas ? Gorgeret écarté tout à l'heure, le grand pôle démoli l'autre nuit. » « Rien de tout cela ne compte plus pour vous, mademoiselle ?» Il voulut l'embrasser sur la nuque et n'atteignit que l'étoffe de son corsage. « Laissez-moi, balbutiait Antonine, mais laissez-moi, c'est abominable !» Obstinément tournée vers la porte qu'elle essayait d'ouvrir, elle se débattait avec fureur. Raoul s'irrita, lui enlaça le cou, lui renversa la tête, et chercha brusquement la bouche qui se dérobait. Elle cria « Oh, quelle honte! Je vais appeler! Quelle honte !» Il recula soudain, les pas du marquis résonnaient sur les dalles du vestibule. Raoul ricana. Ah, vous en avez de la veine. Mais si je m'attendais à cette rebuffade, fichtre, l'autre nuit, dans la bibliothèque du marquis, vous étiez plus souple. Bon, on se retrouvera, vous savez, ma jolie. Elle n'essayait plus d'ouvrir. Elle recula, elle aussi. Lorsque Jean d'Erlemont entra, il la vit en face de lui, dans une attitude d'hésitation et d'émotion. « Qu'est-ce que tu as ?»«
Rien, rien, » dit-elle encore suffoquée. « Je voulais vous parler. »«
De quoi ?»«
Non, non, une chose sans importance. Je me trompais. Non, je vous assure, parrain. »
Le marquis se tourna vers Raoul, qui écoutait en souriant, et qui répondit à son interrogation muette. « Ah oui, je suppose que mademoiselle voulait vous parler d'un léger malentendu, que je désirais d'ailleurs dissiper moi-même. »
« Je ne comprends pas, monsieur, » déclara le marquis.
« Bien voici, j'ai donné mon véritable nom, Don Luis Perenna, mais, pour des raisons personnelles, j'habite à Paris sous un nom d'emprunt, monsieur Raoul. Et c'est comme tel que j'ai loué chez vous, monsieur, votre entresol du quai Voltaire. Or, l'autre jour, mademoiselle a sonné à ma porte, au lieu de sonner à la vôtre, et je lui ai expliqué son erreur tout en me présentant sous mon nom d'emprunt. Alors, n'est-ce pas, aujourd'hui, elle a dû éprouver quelques surprises. » La surprise de Jean d'Erlemont semblait aussi grande. Que lui voulait ce personnage bizarre dont la conduite était pour le moins assez équivoque et dont l'état civil ne paraissait pas très nettement établi? « Qui êtes-vous, monsieur? Vous avez sollicité de moi un entretien. À quel propos ?»«
Ah, quel propos ?» dit Raoul, qui jusqu'à la fin de la conversation affecta de ne pas tourner les yeux vers la jeune fille.
« À propos d'une affaire... »
« Je ne fais pas d'affaires, » lui jeta d'Erlemont d'une voix cassante.
« Moi non plus, » affirma Raoul. « Mais je m'occupe de celle des autres. » Cela devenait sérieux. Y avait-il là une amorce de chantage, la menace d'un ennemi qui allait se découvrir? D'Erlemont tâta la poche de son revolver, puis consulta du regard sa filleule. Elle écoutait avec une attention anxieuse.
« Soyons brefs, dit-il, que voulez-vous? Récupérez l'héritage dont vous avez été frustré jadis. »
« L'héritage, celui de votre grand-père, héritage qui a disparu, et au sujet duquel vous avez fait faire d'inutiles recherches par une agence. »«
Ah, bien !» s'écria le marquis en riant. « Vous vous présentez comme un agent de renseignement. »«
Non, mais comme un amateur qui aime rendre service à ses semblables. J'ai la manie de ces espèces d'enquêtes. » C'est une passion, un besoin de savoir, d'éclaircir, de résoudre ces énigmes. En vérité, je ne pourrais pas vous dire à quel résultat surprenant je suis arrivé dans la vie. Les problèmes séculaires que j'ai résolus, les trésors historiques que j'ai mis au jour, les ténèbres où j'ai jeté la lumière.
Bravo ! S'écria le marquis avec bonne humeur.
Et bien entendu, une petite commission, hein ?
Aucune. « Vous travaillez gratuitement, pour mon plaisir. »
Raoul lança ces mots de dernier mot en riant, comme il était loin des projets qu'il avait exposés à Courville. Les 20 ou 30 millions pour lui, 10% abandonnés au marquis. En vérité, son besoin de se faire valoir et de jouer un beau rôle en face de son interlocuteur, et surtout devant la jeune fille, lui conduit à offrir de l'argent plutôt qu'à en réclamer. Il allait de long en large, la tête droite, heureux d'avoir barre sur d'Erlemont et de se montrer sous un jour avantageux. Désorienté et dominé par lui, le marquis prononça sans plus d'ironie. « Vous avez des renseignements à m'apporter ?»«
Au contraire, je viens vous en demander, » dit Raoul gaiement.
« Mon but est simple, je vous offre ma collaboration. » « Voyez-vous, monsieur, dans toutes les entreprises auxquelles je me consacre,
Il y a toujours une période de tâtonnement qui serait beaucoup plus courte si l'on voulait bien se confier à moi du premier coup, ce qui est rare. Je me heurte naturellement à des réticences et à des cachotteries qui m'obligent à tout découvrir par moi-même. Aussi que de temps perdu. Comme vous agirez dans votre intérêt, si vous consentiez à m'épargner les fausses pistes et à me dire par exemple en quoi consistait ce mystérieux héritage et si vous avez porté plainte. Oh, c'est tout ce que vous désirez savoir. Non, fichtre, non, répliqua Raoul. Quoi encore? Puis-je parler devant mademoiselle du drame qui s'est déroulé dans ce château à l'époque où vous n'étiez pas encore propriétaire de Volnic? Le marquis tressaillit et répondit sourdement. Certes, oui, j'ai parlé moi-même à ma filleule de la mort d'Elisabeth Ornain. Mais sans doute n'allez-vous pas confier l'étrange secret que vous avez dissimulé à la justice. Quel secret? Que vous étiez l'amant d'Elisabeth Hortin. Et sans laisser à Jean Lerlemont le temps de se ressaisir, Raoul continua. Car c'est cela qui est inexplicable et qui m'intrigue plus que tout. Une femme est tuée et dépouillée de ses bijoux. On enquête, on vous interroge, comme on interroge tous les assistants. Et vous ne dites pas qu'il y avait liaison entre cette femme et vous. Pourquoi ce silence? Et pourquoi, par la suite, avez-vous acheté ce château? Avez-vous fait des recherches? Savez-vous quelque chose de plus que ce que je viens de lire dans les journaux du temps? Enfin, y a-t-il un rapport quelconque entre le drame de Volnic et le vol de l'héritage dont vous avez été victime? Les deux affaires ont-elles eu la même origine, les mêmes développements, les mêmes acteurs? Voilà les questions, monsieur, auxquelles je voudrais des réponses précises, qui me permettraient d'aller de l'avant. Un long silence suivit. L'hésitation du marquis aboutit à une volonté si manifeste de ne rien dire que Raoul haussa légèrement les épaules. « Quel dommage ! S'écria-t-il, et combien je regrette que vous vous dérobiez ! Vous ne comprenez donc pas qu'une affaire n'est jamais classée ? Elle se poursuit d'elle-même dans l'esprit des gens qui y sont mêlés ou qui, par suite d'un intérêt personnel que vous ignorez, s'acharnent à en tirer bénéfice. Cette idée ne vous donne pas à réfléchir. » Il s'assit près du marquis et, scandant ses phrases, martelant ses mots, il prononça. De ces tentatives isolées qui tournent autour de votre passé, j'en connais quatre, monsieur. La mienne, qui m'a conduit d'abord dans l'entresol du quai Voltaire, puis dans ce château que j'ai acheté pour qu'un autre ne l'achetât pas, tellement je désirais devenir maître des recherches, Hédin. Ensuite, il y a Clara la blonde, l'ancienne maîtresse du grand Paul, le fameux bandit, Clara la blonde, qui a pénétré l'autre nuit dans votre bibliothèque de Paris et qui a fracturé le tiroir secret de votre bureau pour fouiller parmi les photographies. Et de deux. Raoul fit une pause. Avec quel soin il évitait de regarder la jeune fille et, penché vers le marquis, concentrait toute son attention sur lui. Les yeux dans les yeux, profitant du désarroi de Jean d'Erlemont, il articula à voix basse. Passons au troisième larron, voulez-vous? Au plus dangereux, sûrement. Passons à Valtex. Le marquis sursauta. Valtex, que dites-vous? Oui, Valtex, le neveu ou le cousin, en tout cas, le parent d'Elisabeth Ornain. Absurde, impossible, protesta Lerlemont. Valtex est un joueur, un débauché, d'une moralité douteuse. Je veux bien, mais lui dangereux, allons donc. Toujours face au marquis, Raoul continua. Valtex a un autre nom, monsieur, un sobriquet plutôt, sous lequel il est très connu devant le monde du crime. Le monde du crime? Oui, Valtex est recherché par la police. Impossible. Valtex n'est autre que le grand Paul. L'agitation du marquis fut extrême. Il suffoquait, s'indignait le grand Paul, le chef de bande. Non, c'est inadmissible. Valtex n'est pas le grand Paul. Comment pouvez-vous prétendre? Non, non, Valtex n'est pas le grand Paul.
Valtex n'est autre que le grand Paul, répéta Raoul, implacable.
La nuit dont je vous parle, je savais que le grand Paul postait sur le quai avec ses complices et pillait son ancien ami. Et quand Clara sortit de chez vous, il voulut l'enlever, j'étais là. Je me suis battu avec lui et le voyant en pleine face, j'ai reconnu Valtex dont je surveillais depuis un mois la manœuvre autour de vous. Et le 3. Passons au quatrième intrus. La police qui officiellement a renoncé, mais qui s'obstine dans la personne têtue et vindicative de l'inspecteur, qui jadis fut ici l'auxiliaire impuissant du parquet, je veux dire l'inspecteur principal Gorgeret.
Deux fois Raoul venait de risquer un coup d'œil du côté de la jeune fille. Il la discernait mal. Antonine n'étant placée à contre-jour, mais comme il devinait son émotion, l'angoisse que devait lui infliger ce récit où son rôle à elle, son rôle mystérieux, était mêlé si étroitement. Le marquis, que les révélations de Raoul semblaient troubler au plus profond de lui, hocha la tête.
« Bon, je me souviens, oui, de ce Gorgeret, quoiqu'il ne m'ait jamais interrogé. Je ne pense pas qu'il ait commis l'erreur qui munissait à Elisabeth Ornain.
Non, affirma Raoul.
Mais lui aussi, il a lu quelque annonce de la vente et il est venu.
Vous en êtes sûr?
Je l'ai rencontré dans les ruines.
Donc il a assisté aux enchères.
Non, il n'y a pas assisté.
Comment?
Non, il n'a pas quitté les ruines. Allons donc.
Oui, je préférais le retenir là-bas, lui mettre un petit baillon sur la bouche, un petit foulard sur les yeux et de petites cordes aux bras et aux jambes.
Le marquis eut un haut-le-corps. Oh, je refuse absolument de me prêter à un pareil acte.
Raoul sourit. Mais vous ne vous prêtez à rien, monsieur. La responsabilité de cet acte m'incombe à moi seul, et c'est par pure déférence que je vous en fais part. Les choses que je juge utiles à votre sécurité commune et à la bonne conduite de l'affaire, mon devoir est de les exécuter.
Jean d'Erlemont se rendit compte alors à quoi l'entraînait une collaboration dont il ne voulait à aucun prix, mais qui lui était imposée par les circonstances autant que par la volonté de son interlocuteur. Comment s'y soustraire ?
Raoul reprit. « Telle est la situation, monsieur. Elle est grave, ou du moins peut le devenir, surtout du côté de Valtex. Elle m'oblige à intervenir dès maintenant.
L'ancien ami du grand Paul étant menacé par lui, et le grand Paul, je le sais, étant résolu à agir contre vous, je prends l'offensive et le fais arrêter demain soir par la police.
Que se passera-t-il alors ? Est-ce que l'on établira l'identité du grand Paul et de Valtex ? Est-ce qu'il dévoilera vos relations avec Elisabeth Ornain, vous mettant ainsi en cause au bout de 15 ans ?
Oh, tout cela, c'est l'inconnu. Et voilà pourquoi j'aurais désiré savoir et être au courant de ce qui fut.
Raoul attendit. Mais cette fois, la décision du marquis ne fut pas longue. Il déclara...
Je ne sais rien, je ne peux rien dire.
Raoul se leva.
Soit, je me débrouillerai tout seul. Ce sera plus long. Il y aura du tirage, peut-être de la casse, comme on dit. Vous l'aurez voulu.
Quand partez-vous d'ici, monsieur?
Demain, en auto, à 8 heures.
Bien, j'estime que Gorgeret ne pourra guère se libérer que pour sauter dans le train de 10 heures du matin à Vichy. Donc, rien à craindre pour le moment, si vous faites en sorte que la gardienne du château ne donne à Gorgeret aucun renseignement sur mademoiselle et sur vous. Vous resterez à Paris?
Une nuit seulement, et je m'absente pour 3 semaines environ.
3 semaines?
Bon, ben, donnons-nous rendez-vous dans 25 jours, le mercredi 3 juillet, sur le bord de la terrasse, devant le château, à 4 heures. Cela vous convient? Oui, fit d'Erlemont. Je réfléchirai d'ici là. À quoi? À vos révélations et à ce que vous me proposez. Raoul se mit à rire. Il sera trop tard, monsieur. Trop tard. Non, je n'ai pas beaucoup de temps à donner à l'affaire d'Erlemont. Dans 25 jours, tout sera réglé. Qu'est-ce qui sera réglé? L'affaire Jean d'Erlemont. Le 3 juillet, à 4 heures, je vous apporterai la vérité sur le drame et sur toutes les énigmes qui le compliquent. Et je vous apporterai également l'héritage de votre grand-père maternel, ce qui permettra à mademoiselle, pour peu qu'elle en ait envie, et moyennant la simple restitution du chèque que j'ai signé tout à l'heure, de conserver et d'habiter ce château qui semble tellement lui plaire. Alors, fit d'Erlemont, très ému, vous croyez vraiment réussir à ce point? Ah oh oui, un seul obstacle pourrait m'en empêcher. Lequel? C'est que je ne sois plus de ce monde. Raoul saisit son chapeau, dont il salua d'un geste large Antonine et le marquis, et sans dire un mot de plus, il pivota et sortit avec un certain dandinement du torse sur les hanches, qui devait lui être familier aux instants où il était plus particulièrement satisfait de lui-même. On entendit son pas dans le vestibule, puis peu après la porte de la tour se refermait. Seulement alors le marquis secoua sa stupeur et murmura, pensif encore: Non, non, on ne se confie pas ainsi au premier venu. Certes, bon, je n'avais rien de spécial à lui dire, mais en vérité, on ne s'associe pas à ces individus-là. Comme Antonine se taisait, il lui dit: Tu es de mon avis, n'est-ce pas? Elle répliqua avec embarras: Je ne sais pas, parrain, je n'ai aucun avis. Mais comment, un aventurier, un homme qui porte deux noms, qui surgit on ne sait d'où? Et qui poursuit on ne sait quel but, s'occupant de mes affaires, se moquant de la police et n'hésitant pas cependant à lui livrer le grand Paul. Il s'interrompit dans l'énumération des exploits de Raoul, médita durant une ou deux minutes et conclut: Un rude homme tout de même, et qui a des chances de réussir. Un homme extraordinaire. Extraordinaire, oui, répéta la jeune fille à demi-voix.